Oui, ok, a priori.
C'est pas la mienne, mais elle est bonne quand même. Je ne sais pas si. Oui. Ah, c'est là. Les dérives dangereuses. Vous savez, on peut facilement dériver dans la vie. Et il y a les dérives qui, à la rigueur, on peut s'en sortir bien, mais il y a des dérives dangereuses où vraiment ça nous amène au désastre. J'aimerais que on regarde simplement un seul verset ce soir. Il se trouve en Hébreux chapitre 2 et le volume est trop fort. Je vais lire le premier verset. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues de peur que d'être de peur que nous soyons emportés loin d'elle. Emportés loin d'elle. C'est une bonne expression qui veut dire quoi en réalité? C'est le tableau d'un bateau sur une petite rivière. Et je le vois souvent dans mon imagination. Je vois ce petit bateau-là avec un homme d'un certain âge, avec sa canne à pêche, et qui est là, moitié endormi, moitié en train de réfléchir. Il est là. Et tout d'un coup, il décide que voilà, il est temps de rentrer. Il regarde, mais il n'est plus là où il était. Pendant qu'il était là en train de pêcher, soi-disant, le bateau a dérivé, a continué son chemin le long de la rivière. Et quand il s'est rendu compte, il s'est trouvé loin de là où il était quand il a commencé à pêcher. C'est pour cela qu'il a dit ici, nous devons faire d'autant d'attention, de peur de s'éloigner, de dériver, de ne plus avoir ce qu'on avait autrefois. Pour mieux comprendre le passage, il faut connaître le contexte. C'est-à-dire qu'à ce moment, c'était avant la destruction du temple, remarquez. Parce que le temple va être détruit dans quelques années après. Mais il est toujours là. Les nouveaux chrétiens et ceux qui se sont attachés au christianisme sans être sauvés, parce que c'est possible, hein, on peut s'attacher au christianisme, assister aux réunions, sans être sauvé soi-même. Alors, il y avait des juifs qui ont prétendu ou qui ont suivi les réunions jusqu'à un certain point, mais petit à petit, peut-être gagnés par leurs amis qui sont des juifs assidus au temple, etc., ils avaient commencé à dire, oh, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai bien fait à accepter Jésus comme le Messie, comme mon sauveur? Alors, je vais regarder ça de plus près. Ils sont retournés au temple. Mais en retournant au temple, ils se sont éloignés de la vérité. Ils se sont éloignés de ce qu'ils avaient entendu, c'est-à-dire le message de Christ. On est sauvé par la grâce, par la foi en lui. Et tout d'un coup, ils se trouvent dans le temple en train de nouveau entendre qu'il faut faire ceci, il ne faut pas faire cela, il faut une doctrine d'œuvre. Alors, c'est de deux choses l'une. Ou on est sauvé par les œuvres que nous faisons nous-mêmes, ou on est sauvé par la foi. Mais il faut décider, on ne peut pas faire les deux à la fois. On ne peut pas dire Christ m'a sauvé, mais moi je me suis sauvé. Ce n'est pas possible. Ou on essaie de se sauver, on sera perdu, parce qu'on ne peut pas se sauver soi-même, ou on oublie de faire de bonnes œuvres, sachant que ces bonnes œuvres ne sont pas si bonnes que ça. Et on s'attache à Christ qui a tout fait déjà. On n'a pas besoin de refaire ce qu'il a fait. Christ est mort pour nous, donc là, le salut, c'est par la foi. Si on met toute sa confiance en lui, on est sauvé. Alors voilà ce qui était la question à ce moment-là. Mais vous savez, ça ne s'est pas arrêté à ce moment, à cette époque. Encore aujourd'hui, des millions de gens, que ça soit dans une religion ou dans une autre, vous savez que toutes les religions disent il faut mériter le ciel. Alors s'il faut mériter, il faut faire quelque chose. Donc ils sont en train de faire, les uns font une chose, les autres, et chaque religion dit, voilà, non, c'est pas ça qu'il faut faire, c'est ça. Mais c'est toujours soi-même qui fait. Alors, vous savez, c'est dangereux de glisser, de se laisser emporter par le courant d'eau, de quitter la base du christianisme. La base du christianisme, c'est que Christ a tout fait pour nous. Et que si on met notre confiance en lui, il nous sauve instantanément et pour toujours. Ça, c'est le message de la Bible. Tout autre message n'est pas le message. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Il n'a pas dit, « Je suis un chemin, comme s'il y en avait tant d'autres. Je suis une des vérités, comme s'il y avait beaucoup. Et je suis... » La vie, pas une vie, mais la vie. Et puis il ajoute, au cas où on n'a pas compris, nul ne vient au Père que par moi. Alors là, il faut être vraiment bouché pour ne pas comprendre ça. Nul ne vient au Père que par moi. C'est-à-dire, ou on passe par Christ, ou on ne passe pas. Ou on est sauvé par lui, ou on n'est pas sauvé. On ne peut pas être sauvé en observant une religion. On peut faire tout ce que la religion nous demande de faire, être baptisé, de faire ceci, de faire les pèlerinages, de faire ceci, cela. On est perdu à la fin. On est perdu parce que ça ne compte pas. Dieu ne compte pas ça. D'ailleurs, il y a un verset dans l'Ancien Testament qui dit « Nos bonnes œuvres sont sales à ses yeux. » Alors si nos bonnes œuvres sont sales à ses yeux, qu'est-ce que sont nos mauvaises œuvres? Alors, voilà. Voilà la chose, emporter loin d'elle. Il faut faire attention, parce que le monde aujourd'hui s'en va de plus en plus. S'éloigne de cela. Et vous savez, c'est le message simple de la croix. D'ailleurs, je me demande, est-ce que vous connaissez l'Évangile? Vous avez entendu parler de l'Évangile? Mais je suis persuadé que si je vous demandais qu'est-ce l'Évangile, je me demande combien ici pourraient me donner la bonne réponse. L'Évangile, c'est quoi? Alors, c'est trois choses. Trois choses, n'oublions pas. Si on manque un de ces trois, on n'est pas sauvé. Attention, il y a trois. La première, une repentance. Il faut être vraiment prêt à quitter sa vie passée et de demander, Seigneur, pardonne-moi de tous mes péchés que j'ai commis. Pardonne-moi totalement. Et nommez-les si vous voulez. Mais demandez pardon de vos péchés passés. Ça, c'est la repentance. Une fois qu'on se repentit, mais vraiment qu'on est vraiment brisé devant le Seigneur, donc le deuxième, c'est la foi. Si quelqu'un croise au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Mais c'est bon uniquement quand on est vraiment repentant. Si on dit à quelqu'un en passant dans le... Croise au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Ah oui, je crois. Non. Ça ne marche pas comme ça. C'est un brisement d'abord. C'est une repentance totale. Et puis, on met toute sa confiance en Christ. Pas une moitié, mais toute sa confiance en lui. Puis après, c'est quoi? C'est pas ça assez? Non, non, non. Il y a encore une autre chose. Troisième point. Il faut confesser Christ. Ça veut dire, dans d'autres mots, prendre position pour Christ. C'est-à-dire que si on se repent vraiment et on pleure vraiment, mais on n'accepte pas Christ, on n'est pas sauvé. La repentance seule ne suffit pas. Vous savez, il y a des gens qui se repentent. Hein? qui regrettent amèrement leur péché. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont accepté Christ pour autant. Donc il faut d'abord être repentant, puis accepter Christ, et puis quoi? Et quoi? Prendre position pour lui. La façon la meilleure, c'est être baptisé. De dire, Seigneur, je te suis. Tu m'as demandé de le faire, donc je me fais baptiser. On prend position devant ses amis. On dit à ses amis, je suis sauvé. Si on a honte de lui, si on ne prend jamais position, si on est comme ceci, il manque quelque chose dans notre salut. C'est ça qui donne la réalité, c'est quand on prend position pour Christ. Quand on est vraiment... Il y a des prédicateurs qui disent à la fin de leur réunion, maintenant, allez dans l'église de votre choix. Mais l'église de votre choix, ça peut être une église qui enseigne des choses contraires à la parole de Dieu. Ce n'est pas une question d'aller là où on veut. C'est une question d'aller là où la parole de Dieu est prêchée fidèlement, comme la Bible dit, et non pas toutes les philosophies et toutes les pensées et tout le reste. Ça, c'est la chose. Mais nous qui connaissons le Seigneur, la foi, notre foi aussi risque des fois de dériver. Par exemple, on peut dire, moi je crois que Dieu peut faire, et je le sais, il peut faire ça et ça, mais on se trouve dans une situation très grave. On dit, voilà, ça, pour ça je ne sais pas si je peux compter sur le Seigneur ou non. Ah là là. Est-ce qu'il y a quelque chose d'impossible à Dieu? Est-ce qu'il peut tout? La réponse, même si vous ne connaissez pas la réponse, je vous la donne. Oui, Dieu peut tout. Rien n'est impossible à lui. Et peu importe le problème que vous avez maintenant, il faut dire, Seigneur, toutes les promesses sont encore valables. Je peux prendre une de tes promesses et me tenir dessus. Sachant que ce que tu dis est vrai, la promesse de Dieu reste vraie. Il n'y a pas une situation où notre foi ne peut pas être mise en exécution. Le Seigneur peut nous sortir de là où nous sommes, le problème que nous avons. Mais je vais prendre l'autre côté de la médaille. Vous savez, il y a des gens qui disent... « Seigneur, j'ai besoin de toi. Je suis dans un pétrin terrible. Tu vois où je suis maintenant. » Et le Seigneur les sort, quelquefois des situations impossibles. Et puis, il les met sur la route de nouveau. Et puis, tout d'un coup, il y a quelque chose d'autre qui arrive. Ils ne disent pas à haute voix, mais ils pensent autant, « Seigneur, cette fois-ci, je peux m'en sortir tout seul. » Je suis à l'auteur. Pour ça, je peux le faire. Le Seigneur a dit, tu ne peux rien faire sans moi. Sans moi, tu ne peux rien faire. Nous avons besoin de lui. Et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On dérive et on chute. Et les chutes sont graves. Parce que quelquefois, on perd pied et on s'éloigne de plus en plus. On a besoin de Dieu tout le temps dans notre vie. On a besoin de lui pour vivre, pour marcher comme il faut. Oh, si on pouvait le comprendre. Si vous mettiez tout entre ses mains, n'essayez pas de le faire vous-même. Je sais de quoi je parle. Je suis passé par tout cela. Je pourrais entrer en détail et vous dire toutes sortes de choses. Comment Dieu peut venir dans notre vie et nous sortir des problèmes incroyables. Mais il faut continuer à faire confiance en lui, prendre position pour lui, parce que les conséquences sont graves dans les deux cas. Pour le chrétien, il peut vraiment s'éloigner loin du Seigneur, perdre vraiment son zèle et sa foi, ou pour l'inconverti, s'il s'éloigne, mais c'est les ténèbres éternelles. Il est perdu pour l'éternité, c'est ça. J'aimerais passer à autre chose. Et il y a l'amour. Vous savez, on peut faire la dérive sur l'amour. En Apocalypse, chapitre 2, il y a le verset là où il s'agit de de l'église d'Éphèse. Et Dieu dit à l'église d'Éphèse, « Oh, je connais tes œuvres. Tu as les œuvres magnifiques. Je connais ton travail. Je connais ta persévérance. » Parce que même dans les problèmes, tu persévères. Je sais que tu gardes la foi. Je sais que tu prêches contre ceux qui veulent détourner la foi. Vous savez, si on a une église comme ça, on dit, voilà, amen, amen, amen. On n'a pas beaucoup d'églises comme ça. Hein. Ça, c'est une église fondamentaliste. Hein. Ça, c'est une église avec toute notre approbation. Mais qu'est-ce qu'il dit? Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as perdu ton premier amour. Vous savez, on peut, nous les chrétiens, on peut faire des œuvres, on peut faire tout ce qu'on demande de faire, machinalement, on peut venir à l'église, on peut porter sa Bible, on peut apprendre des versets par cœur, on peut avoir toute la vérité, n'est-ce pas, de dire tout ce qu'il faut. Mais si on perd son amour, la Bible dit, repentez-vous, autrement vous allez tout perdre. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est l'amour qui donne la vie. Vous savez, autrement tout devient mécanique. On peut même prêcher machinalement. Une fois qu'on comprend comment le faire, on peut le faire, vous savez, mais petit à petit, tout le monde se rend compte que c'est du déjà vu, c'est mécanique, ce n'est pas ça. Vous savez, ce qui nous garde près du Seigneur, c'est notre amour pour lui. Quand on perd notre amour pour lui, on a tout perdu. Hein. Repens-toi, cherche cet amour, va avec cet amour. Je veux finir avec une autre chose. C'est l'espoir. L'espérance. Vous savez que la Bible dit en Tite, la bienheureuse espérance. Qu'est-ce la bienheureuse espérance? C'est le retour de Christ. C'est l'enlèvement qu'Annick attend tout le temps. Mais c'est bien d'attendre tout le temps. Hein? Vous savez que les premiers chrétiens, il paraît que quand ils sont arrivés en croisement, quand il y avait une rue là et une rue là, quand ils sont arrivés là, ils regardaient s'il n'est pas là. Oh, ils attendaient le retour de Christ tout le temps. Nous devons faire autant. Ça, c'est la bienheureuse espérance. Il y a une couronne réservée pour ceux qui attendent son retour, avec anticipation et avec preuve à la main. C'est-à-dire qu'ils vivent en conséquence. Des chrétiens qui me disent, dans 30 ans, j'ai l'impression, j'avais l'intention de, dans 30 ans. Donc ça veut dire qu'ils n'attendent pas le Seigneur d'ici 30 ans. Hein. Il faut vivre en conséquence de son arrivée qui est très proche. Très, très proche. Vous savez qu'on dort la nuit et on doit dormir tranquillement. Si on a la foi, on ne doit pas avoir peur. Parce que si on a peur, on n'a pas la foi. Celui qui a peur, il n'a pas la foi. Et quand on dort, on doit dormir sachant qu'on est toujours avec le Seigneur. On est avec lui, peu importe ce qui arrive. Mais vous savez, quelquefois, quand on apprend ce qui s'est passé, ça nous donne quelquefois des frissons. L'autre jour, j'ai appris quelque chose que j'ignorais jusque maintenant. C'est que depuis que Obama est au pouvoir aux États-Unis, il est arrivé quelque chose d'incroyable. Un jour, le secrétaire de la trésorerie de l'Amérique s'est rendu compte d'un dérapage. Et il voyait que Wall Street continuait, comme si rien n'était, continuait. Tout d'un coup, il s'est rendu compte qu'il n'y avait que 3 heures qui restent. Si dans les 3 heures qui suivaient, ils ne pouvaient pas arrêter ce qui se passe à Wall Street, c'était l'effondrement de toute la monnaie de la Terre. Imaginez. L'euro serait rien du tout, le dollar serait rien du tout, tout l'argent du monde entier serait... Il avait 3 heures pour l'arrêter. Ils se sont précipités au bureau du président Et il était en conférence, ils ont arrêté la conférence, ils ont dit, voilà la situation, on a 3 heures pour arrêter, autrement tout l'argent du monde entier va s'effondrer. Donc le président a fait le nécessaire, on a stoppé Wall Street, et voilà. Mais ça aurait été pire qu'une bombe atomique. La ruine de tous les pays. On dormait, on est à l'aise, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui se passe. Combien de fois Dieu nous garde dans les moments incroyables. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on a frôlé 2 fois déjà une guerre nucléaire au Proche-Orient, 2 fois. C'était moins d'eux. L'Amérique a envoyé des émissaires pour dire n'attaquez pas, parce que Israël était tout prêt à lâcher des bombes sur l'Iran. Tout prêt. C'était tout prêt à décoller. Vous ne savez pas ça. Il y avait des choses. Nous, combien c'est merveilleux de savoir qu'on est sauvés. Et peu importe ce qui arrive, le Seigneur va nous prendre. Il va venir bientôt. Je vous dis ces choses-là pour vous montrer qu'on est à la fin. Vous savez qu'à partir du 11 avril, tous les dimanches soirs, il y aura un message prophétique tiré de la Bible, montrant où nous en sommes et à quel point nous sommes prêts du retour de Christ. Vous dites, oui, mais je connais tout ça. Il y aura beaucoup de choses que vous ne connaissez pas. Bien sûr, il y aura des choses que vous connaissez, mais beaucoup de choses que vous ne connaissez pas sera révélées pendant ces messages tous les dimanches à 3 heures l'après-midi. On va avoir ça. Vous pouvez inviter vos amis de venir, de ne pas manquer, parce qu'il y aura des choses étonnantes qui seront dévoilées, que la Bible dévoile. On ne va pas les inventer. Ce sont des choses cachées que le monde ne connaît pas. Vous savez que la quasi-totalité de toutes les églises dites chrétiennes et ça ne prêchent même pas l'enlèvement de l'Église. Ils disent non, tout va continuer comme ça. Peut-être un jour Dieu va venir sur terre, etc. Mais vous savez, on glisse. Le retour de Christ est imminent. La trompette peut sonner d'un moment à l'autre. Quand la trompette sonne, c'est la fin. C'est la fin de l'âge de la grâce, c'est la fin. Pour le moment, Dieu dit, la porte est ouverte, entrez. Entrez, vous pouvez entrer. Il est temps encore. Mais quand la trompette sonne, c'est la fin. Quand on sera enlevé, quand l'Église partira vers la rencontre du Seigneur dans les airs, il sera trop tard de dire, Seigneur, je veux être sauvé, c'est terminé. C'est terminé. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le moment favorable. Est-ce que vous êtes sauvés? Est-ce que vous êtes sûr que quand la trompette sonne, vous serez enlevés avec nous dans les airs? Oh, quel message! Mon premier message sera l'enlèvement de l'Église, mais je vais vous dire des choses que vous ne connaissez pas. Des choses qui vont se passer. Oh, combien il est nécessaire de faire la paix avec Dieu maintenant. Passer par la repentance, la foi, et prendre position pour Christ, et de dire à partir de maintenant, Seigneur, je suis à toi, et je veux que tout le monde le sache. Je suis un chrétien qui aime le Seigneur, et qui veut vivre pour lui. Oh, quel message! Est-ce que vous êtes prêts? Si la trompette sonne ce soir, est-ce que vous êtes prêts?